une note positive après ces temps de confinement. C'est vrai, on a relevé tant de choses qui ont été liées à cette période, mais je note quand même une note positive. C'est que vous avez grossi, j'ai grossi. Voilà. Donc, c'est une note positive pour le confinement. Dieu nous a donné des vacances générales afin que nous puissions retravailler nos corps avant que nous puissions avoir les 20 sur 20 avant les temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Il a commencé par toi. Il a commencé par entretenir ton extérieur. Il a commencé par travailler ta mine. Ta mise. Et ce matin, je vais te dire qui m'a et tout ça. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Ce matin, nous voulons retourner dans Ebenezer. Et cependant, nous voulons parler d'Ebenezer, des points, un panneau à double regard. Ebenezer, un panneau à double regard. Nous allons lire pour cela dans 1 Samuel, chapitre 7, du 1er au 14e verset. 1 Samuel, chapitre 7, du 1er au 14e verset. Le culte du matin est exceptionnel. Les gens ont sens que fraîchement du sommeil, ils ont encore le poids. S'il vous plaît, n'excédons pas ce poids. 1 Samuel 7, 1 à 14, si nous avons trouvé, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Les gens de Kirjat Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Betkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il appela du nom de Ben-Ezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a sauvés. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Je répète, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Ekron jusqu'à Gath. Avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Qui résisterait face à son action? qui résisterait lorsque tu décides, oh Dieu, de changer le regard qu'on a toujours eu sur ton peuple? Lorsque le ciel a sonné, la terre va bouger et les choses ne restent plus les mêmes. Et Bélézer est venu pour sortir un homme, oh Dieu, qui était enfoui dans les décombres, oh Dieu, du mépris. Qu'il en soit ainsi ce matin, de ces hommes et les femmes, oh Dieu, chacun avec son histoire, chacun avec son passé, oh Dieu, mais tous nous convergeons vers un même but, c'est que l'Éternel nous sort de cette situation dure et pénible dans laquelle nous nous trouvons plus de 20 ans passés. Seigneur, merci. Que ta parole ce matin, oh Dieu, soit, Seigneur, l'axe par lequel un homme trouvera l'issue pour son problème. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir la parole de Dieu par nos applaudissements? Alléluia! Est-ce que tu peux accueillir convenablement la parole du Seigneur? La parole du Seigneur donne la vie! Jésus nous donne la vie par sa parole. Alléluia! Oh Jésus! Quel sens devons-nous donner à cette parole qui est devenue finalement incontournable dans la plupart de nos actions de grâce, surtout celles qui touchent les anniversaires ou la réussite dans un domaine ou un autre? C'était ça notre question depuis le début de cette série de messages. Quel sens donner à cette parole que nous utilisons fréquemment, régulièrement, dans la plupart de nos actions de grâce? Ceux qui fêtent leurs anniversaires, ils vont puiser dans Ebenezer pour terminer leur action de grâce. Ceux qui réussissent aux études, ils vont puiser dans Ebenezer pour dire « Gloire au Seigneur, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. » Celui qui a fait les affaires et qui ont marché, il vient également rendre grâce au Seigneur, mais tout en puisant dans cette parole qui est devenue finalement incontournable. Mais la parole que nous utilisons si fréquemment, nous nous posons finalement la question de savoir quel sens donnons-nous à cette parole. Quel sens accordons-nous à cette parole qui est devenue incontournable de la plupart de nos actions de grâce? Il est important, frères et sœurs, que nous sachions que les phrases ou les déclarations qui nous font du bien aujourd'hui prennent trop souvent des itinéraires qui exigent de leurs auteurs d'une part du courage et d'autre part la foi, même au milieu des réalités non favorables à l'accomplissement de la mission. Ça, c'est une vérité. Allez poser la question à David, lorsque il a fait cette déclaration, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Allez poser la question à David, quel était l'itinéraire pour que tu nous donnes, pour que tu nous lègues cette parole si forte, si puissante. David te dira, devant Amalek, devant les Amalécites, je devais faire l'insensé. Je devais faire l'insensé pour passer dans ce filet qui m'était tendu. Nous aimons prendre les phrases. Nous aimons applaudir après avoir entendu une belle prédication. Mais vous n'en savez pas les itinéraires. Je prends trop souvent ces paroles, ces déclarations ou ces prédications. Trop souvent, ce sont des itinéraires de larmes. Ce sont des itinéraires d'incompréhension même. Ce sont des itinéraires difficiles à accepter. Mais il faut passer par ce même chemin-là pour être une bénédiction pour les autres. Des itinéraires qui exigent de leurs auteurs, des auteurs de ces paroles, d'une part du courage, mais d'autre part la foi même au milieu des conditions non favorables à l'accomplissement de la mission. Posez la question à Jacob. Puisque c'est de lui qu'il s'agit cette année, lorsqu'il dit, si je n'avais pas, voilà 20 ans que j'étais servi, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vide. Nous nous en servons aujourd'hui pour avoir des points d'appui qui vont nous projeter vers l'avenir. Mais allez poser la question à Jacob, il te dira, c'était 20 ans de douleur, 20 ans de souffrance où j'ai connu le changement de mon salaire, combien de fois? 10 fois. J'avais connu le froid, la chaleur. Mais tout cela, c'était pour nous donner un héritage aujourd'hui. Alléluia. Après son analyse sur la bonne résolution prise, 20 ans après, suivi du rêve d'un serviteur, Ebenezer ce matin nous conduit à l'examiner dans son sens d'un panneau à double regard. Un panneau à double Et regarde, normalement, je devais parler d'un panneau à double face. Mais j'ai été conduit par le Saint-Esprit pour employer plutôt l'expression « regarde » et vous en saurez les pourquoi dans quelques instants. Un panneau à double regard, parce que nous sommes en train de répondre à la question « quel sens donnons-nous à cette parole qui est devenue incontournable dans la plupart de nos actions de grâce ?» Nous avons touché le sens d'une bonne résolution, les résultats d'une bonne résolution prise 20 ans après, mais aussi nous l'avons exploité dans le sens du rêve d'un serviteur qui s'était accompli. Et aujourd'hui, pour clôturer cette partie introductive, nous voulons l'aborder dans son sens d'un panneau à double regard. Qu'est-ce qu'un panneau finalement? Si vous sortez dehors, soit vous venez de Bouima pour descendre ici, soit vous venez de Coca pour venir ici, sur notre toit, le prolongement qui couvre l'entrée principale du grand balcon, vous trouverez au-dessus qu'il y a un panneau. Vrai ou faux? Un panneau lumineux, un panneau qui permet à ceux qui viennent de Bouima de lire les informations qui sont contenues, et ceux qui viennent de Coca lisent également les informations qui sont contenues. Donc, si vous n'avez jamais vu un panneau, voilà un panneau. Qu'est-ce qu'un panneau en publicité? Notez, un panneau est une pièce en bois. Un panneau est une plaque métallique. Un panneau est une pierre taillée qui porte des indications destinées à être vues du public ou des intéressés. Notez bien chacun des mots qui est employé dans cette définition. Un panneau est une pièce qui peut être en bois, une pièce qui peut être en métal, ou bien une pièce qui peut être en pierre taillée. Mais l'élément essentiel dans un panneau, ce sont les indications qui sont contenues. Et ces indications, l'objectif principal, c'est qu'elles soient lues par un grand nombre du public. C'est qu'elles soient vues par le public ou par ceux qui sont intéressés par ces indications. Ainsi, nous comprenons que le but d'un panneau publicitaire, c'est d'être visible de loin. Alléluia. Le but d'un panneau publicitaire, c'est d'être visible de loin par le plus grand nombre d'automobilistes et de piétons. Regardez ce qui se passe pendant les campagnes ou la campagne électorale, que ce soit pour les présidentielles ou les législatives. Vous allez voir des candidats qui ont de gros moyens, ils vous bombardent des panneaux, c'est pas de 4 mètres sur 2, des panneaux géants comme pas possible. L'objectif, ce n'est pas de montrer qu'on est bien coiffé. L'objectif, ce n'est pas de montrer qu'on est bien habillé. L'objectif, ce n'est pas c'est un message. Alléluia. Donc, c'est ça le but d'un panneau. C'est d'être visible de loin par le plus grand nombre d'automobilistes et de piétons. Et lorsque nous parlons d'un panneau à double regard ou à double face, là encore, c'est un avantage. Parce que, finalement, ce panneau devient une solution parfaite pour ceux qui souhaitent que leur message soit clairement visible des deux côtés. Et quand vous regardez notre panneau à l'entrée, c'est aussi un panneau à double face. Parce que ceux qui viennent de Bouima, ils regardent, ils lisent. Ceux qui viennent de Coca aussi, ils regardent et ils lisent. Mais seulement que pour notre message de ce matin, nous voulons considérer les panneaux qui est vu, c'est vrai, des deux faces. Mais les deux faces ne contiennent pas les mêmes informations. Alléluia. Quand vous allez sur la route de Kinshasa, pendant la route, vous allez voir des panneaux sous forme de pierres ou de monuments. Où vous avez, quand vous êtes à Matadi pour aller à Kinshasa, on vous donne le nombre de kilomètres qui restent pour arriver à Kinshasa. Mais de l'autre côté, ce ne sont pas les mêmes informations. Vous venez de Kinshasa pour Matadi, on vous donne le nombre de kilomètres qui restent pour arriver à Matadi. Ainsi, frères et sœurs, chacun de nous est un panneau à double regard, ça dépend de la façon dont tu me regardes. C'est pas quelle est la face qui est devant toi de ma personne. Nous pouvons nous retrouver tous à Kasangoulou. Moi, je suis en train de dire au revoir Congo Central, bienvenue Kinshasa. Et toi, tu es à Kinshasa, tu entres, on te dit au revoir Kinshasa, bienvenue Congo Central. Alléluia. Donc, comprenons bien ces choses. Alors, notez ceci. Face à la victoire d'Israël sur leurs ennemis, les Philistins, après 20 ans de domination et d'occupation, Samuel, descendant de Jacob, nous apprend que la fierté nationale d'un peuple demeure l'œuvre du secours de l'Éternel et de sa délivrance. Samuel nous apprend face à cette victoire. Nous avons lu avec vous comment Israël, finalement, il est déçu sur ses ennemis. Et Samuel va s'exclamer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru après avoir posé une pierre entre Mitzpah et Shem. Par cet acte, Samuel nous apprend que la fierté nationale d'un peuple demeure l'œuvre du secours de l'Éternel et de sa délivrance. Ça n'a jamais été, frères et sœurs, l'œuvre de qui que ce soit. Peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous pouvez donner aux autres, ça c'est une chose que c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui donne son secours. Et la fierté vient quand l'œuvre de Dieu se manifeste dans votre vie. Cela s'explique lorsque Mardoché va dire à Esther, et là nous sommes dans Esther 4, le verset 14, Israël est menacé par les dix du roi, influencé par Aman. Et Israël est au bord du chaos. Et Mardoché va envoyer un message à Esther pour lui dire ce qui était en train de se préparer comme destruction massive du peuple de Dieu. Et Esther est en train de tergiverser à gauche et à droite pour donner des explications. Vous savez, je ne peux pas aller chez le roi, je ne peux pas faire ceci, ceci, je ne peux pas faire cela, vu la loi de ce pays ou les lois de ce pays. Mais écoutez la réponse que Mardoché donne à Esther. Il lui dit, si tu t'étais maintenant, si tu t'étais maintenant, alors les Juifs mourront. Non, il lui dit, si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. C'est pour dire à quelqu'un, si tu me donnes un peu, ne pense pas que toute ma vie, ma délivrance et mon secours, c'est seulement toi. Non, si tu t'étais aujourd'hui, sache qu'il y aura une porte qui va s'ouvrir. Il y aura un chemin que Dieu va frayer. Ma vie ne dépend pas de qui que ce soit, mais ma vie dépend d'une histoire que le Seigneur lui-même a organisée et qu'il est en train de mettre en place. Je vais dire au corbeau qui était venu nourrir Élie, si tu ne veux plus venir avec ton père, reste avec ton père. Si le torrent aussi peut dire, parce que toi tu as fermé le ciel en disant qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et demi et je n'ai rien à te donner, tu peux sécher toi aussi. Mais sache une chose, la délivrance passera par la veuve de Sarepta. C'est-à-dire par une voix que personne ne peut comprendre, Dieu fera passer la délivrance pour son serviteur. Ne regarde pas comme si c'est terminé pour toi. Ne regarde pas comme si c'est fini pour toi. Pour toi, la délivrance et le secours surgiront d'autre part. Parce que toi, tu n'es pas dans la situation générale de tout le monde. Si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Il y a des gens très courageux, très audacieux qui peuvent vous dire, si ce n'était pas moi ou si ce n'est pas moi, est-ce que cet homme-là sortira la tête? Est-ce que cette femme-là aura quelque chose? Est-ce que cet agent-là aura ceci ou aura cela? Ce n'est pas un problème. Dieu te dit seulement que si toi tu t'étais, lui ne cessera pas. Si toi tu fermes les bras, lui ne fermera pas ses bras. Sache que la délivrance et le secours vont surgir de quelque part. Mais toi, tu auras toujours en abondance? Non! Toi et la maison de ton père, vous périrez. En d'autres termes, si tu as quelqu'un à qui tu donnes quelque chose, continue à le faire. Alléluia. Continue à le faire et ne prends pas la place de Dieu. Ne prends jamais la place de Dieu pour dire que tout dépend de toi. Tout dépend de toi, toi qui? Tout dépend de toi, toi qui? Sache que la délivrance et le secours de l'Éternel surgiront d'autre part. C'est pour seulement rassurer l'enfant de Dieu ce matin. Ne t'inquiète absolument de rien, parce que Dieu a planifié une série de séquences de délivrance et de secours. Si tu vois à gauche se fermer, ne promène pas de regards inquiets. Il sait ce qu'il est en train de faire. Le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Mais ceux qui ont bloqué le transfert ou la livraison de ce que tu avais besoin, c'est à eux de sécher et de périr. Alléluia. Ainsi, cette fierté nationale d'Israël, parce que nous l'avons vu, Israël finalement, il est déçu sur ses ennemis. cette fierté nationale d'Israël retrouvée s'illustre en premier ce matin à travers un regard différent. Avant de terminer par un geste pour la postérité. Un regard différent. Nous avons lu ensemble avec vous, dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 12. La Bible dit, Samuel prit une pierre, suivez, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Quand vous lisez le verset 5 du même chapitre, Samuel va convoquer Israël à Mitzpah. Israël finalement a reconnu sa faute et il est revenu vers l'Éternel et Samuel fait la convocation à Mitzpah pour qu'il procède au service pour juger le peuple et tout ça et demander pardon au Seigneur. Et nous sommes au verset 12. L'Éternel a répondu favorablement. Et le peuple a eu les déçus sur son peuple, sur ses ennemis et les a poursuivis. Et le verset 12, la Bible dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem. Et il appela du nom de Ben-Ezer. Il appela quoi? Il appela cette pierre qu'il a placée entre Mitzpah et Shem. Il appelle cette pierre comment? Et Ben-Ezer, tout en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il appelle cette pierre, suivez très bien. Le lieu où il se trouve, il est à Mitzpah, parce que même la pierre, il la pose entre Mitzpah et Shem. Mais la pierre que Samuel prend et pose, il nomme cette pierre-là comment? Ebenezer. Il regarde la pierre et dit, toi là, quand je te vois, tu es Ebenezer. Pourquoi? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, la question que l'on peut se poser est celle de savoir, pourquoi seulement donner à cette pierre le nom de Ben-Ezer alors que l'on ne se trouve pas à Ben-Ezer? Pourquoi avoir donné seulement le nom de Ben-Ezer à cette pierre qu'il a placée entre Mitzpah et Shem? La réponse nous la trouvons dans 1 Samuel chapitre 4, le premier et le deuxième verset, mais aussi dans 1 Samuel 5, le premier verset. Pourquoi avoir donné ce nom de Ben-Ezer à cette pierre alors qu'on est à Mitzpah? La réponse nous la trouvons dans 1 Samuel chapitre 4, le premier, le deuxième verset, mais aussi 1 Samuel 5, le premier verset. Trouvons et lisons tous ensemble, s'il vous plaît. La Bible déclare, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent où? Près de Ben-Ezer. Et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Et quand vous continuez encore le verset d'en bas, vous allez voir que finalement Israël s'est dit, bon, si nous avons perdu le combat, c'est parce que l'arche n'était pas au milieu de nous. Ils vont envoyer des jeunes gens pour récupérer l'arche, et dès que l'arche entre, ils vont pousser des grands cris qui va même faire trembler les ennemis. Ils vont se dire, ah, finalement le Dieu des Hébreux est arrivé dans leur camp, donc malheur à nous et tout ça. Ils vont se fortifier et ils vont combattre encore, et cette fois-là, ils vont battre Israël copieusement. Israël va perdre 30 000 ce jour, donc 30 000 pour ce deuxième round de combat. Au total, Israël va perdre combien? 34 000 personnes. Et Israël avait campé où? C'était à Ebenezer. Et maintenant, lisez le chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit, les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Ashdod. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, l'arche a quitté quel endroit? Ebenezer pour aller à Ashdod dans le pays des Philistins. Alléluia. Quelle situation dramatique pour Israël. Je dis ceci, on regarde le tableau sombre d'Ebenezer, tel que présenté par ces deux passages bibliques. Je me suis posé la question de savoir quelle qualité du regard que les voisins d'Israël pouvaient avoir sur lui. Quelle qualité du regard Lorsque toutes les fois l'on parle de Ben-Ezer, lorsqu'on parle de Ben-Ezer, c'est comme quelqu'un qui est en train de remuer les souvenirs difficiles à accepter qu'ils ont connus dans leur histoire. Tous ceux qui entendaient parler de Ben-Ezer se rappelaient de la défaite d'Israël. On se souvenait des 34 000 hommes qui avaient péri ce jour-là. L'on se souvient que c'était de Ben-Ezer que l'arche avait été prise par les Philistins. L'on se souvenait de tous ces moments sombres de l'histoire d'Israël. On se souvenait du mépris qui était attaché à ce peuple. On se souvenait de la honte qui était attachée à ce peuple. On se souvenait de toutes les mauvaises choses qui s'étaient produites ce jour-là à Ebenezer. Quelle qualité du regard les voisins d'Israël pouvaient avoir sur lui? Quelle qualité du regard tes voisins au quartier peuvent avoir sur ta personne? Quelle qualité de regard les autres peuvent voir sur ta personne? Quand on te regarde, l'on se souvient des échecs du passé. Quand on te regarde, l'on se souvient de la honte qui a traversé plus de 20 ans d'Iran. Quand on te regarde, c'est la désolation qui saute aux yeux. Mais sachez une chose, c'est que c'était par un événement que Israël est arrivé à cette situation. Dieu, pour rétablir la situation de son peuple, est passé par un autre événement. C'était pas un événement de petite taille, mais un événement de grande taille, parce qu'il a fallu qu'il y ait un tonnerre. Il a fallu que le ciel bouge pour que sur la terre, une honte de 20 ans soit roulée. Une preuve de 20 ans soit roulée. Je voudrais dire à un homme ce matin, attends-toi à un événement ce matin. Dieu ne laissera pas les choses continuer comme si de rien n'était. C'était par un événement que la honte est arrivée dans ma vie. Mais Dieu est celui qui fabrique les événements. La Bible ne l'appelle-t-il pas le maître des temps et des circonstances? C'est-à-dire le maître des événements, c'est l'Éternel notre Dieu. Pendant 20 ans, j'ai connu la honte. Pendant 20 ans, j'ai connu des humiliations. Dieu s'est dit, ça c'est, il est question de mon peuple, il est question de celui pour qui j'ai beaucoup investi, je ne le laisserai pas finir par la honte, je ne le laisserai pas finir par la désolation. Dieu va provoquer un bruit comme ce jour-là à la Pentecôte, il a fallu que le ciel soit déchiré, qu'il y ait un grand bruit qui puisse attirer les hommes vers la chambre haute. Alléluia. Laisse Dieu provoquer un événement dans ta vie. Laisse Dieu lui-même créer un événement. Vous savez, le regard, pour que le regard des gens autour de toi change, ne force pas les choses. Ne fabrique pas les choses. C'est pourquoi ce n'est pas bien d'aller emprunter, de prendre toujours les choses d'autrui. C'est pas bon. Laisse Dieu provoquer un événement. Laisse Dieu lui-même fabriquer un événement. Il est celui qui fabrique les événements lui-même. Laisse-le te sortir par un événement. Laisse-le te sortir par une circonstance, parce que c'est lui seul qui en est le maître. Ne fabrique pas une façade extérieure. Les gens pourront te regarder, mais la deuxième fois, ils ne verront plus la chose parce que j'ai abattu. C'est pourquoi je dis ceci. C'est une peine perdue quand tu dois forcer la qualité du regard des autres sur toi. Il y a un événement qui va créer de soi-même la situation. Il y a un regard qui doit être changé sur toi. Tu es un panneau qu'on a vu d'une certaine manière jusqu'à présent. Mais tu es un panneau à double regard. Quand les hommes t'ont vu, ils n'ont vu qu'une seule facette. Ils n'ont vu qu'un seul côté. Ils n'ont vu qu'une seule face. Mais pourtant, Jésus est venu pour créer l'autre face. Quand Jésus vient, il crée une autre face. Désormais, si tu lis mon histoire, lis les deux faces. Ne lis pas seulement un seul côté. Je suis un panneau à double regard. Je ne suis pas que d'un seul côté. Tu n'as vu qu'un seul côté. Mais viens voir l'autre face. Tu trouveras d'autres informations. Celui que nous avons vu, qui était humilié. Et pourtant, nous le voyons dans l'autre face restauré. Comment est-il restauré? Dieu l'a restauré par le tonnerre. Oh, mais qu'est-ce qui s'était passé? En tout cas, moi aussi, je ne sais pas. Mais j'ai seulement constaté qu'il a été restauré par l'œuvre de l'Éternel Dieu lui-même. J'ai pris ce matin qu'il y a un événement qui te sort du trou. J'ai pris ce matin qu'il y a un événement qui te sort du lot. J'ai pris ce matin qu'il y a un événement qui te fasse découvrir au monde. Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit que tu étais simplement un panneau à une seule face? Qui t'a dit que les choses ne s'arrêteraient que là où finalement tout le monde avait les regards de pitié, de désolation? Tu es un panneau à double regard. Quand on te regarde, dis à cette personne-là, quand tu me donnes de telles informations, ngoya, oh, mawa, oh, ainsi de suite, tu as vu quel panneau, premier ou deuxième? Peut-être que tu t'es arrêté au premier panneau, à une seule face. Mais continue la course. Continue la course. Si tu viens de Kinshasa, tu es là en Kassangoul, tu vas voir bienvenue Congo Central. Mais tourne encore, tu vas voir au revoir. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, quand on dit bienvenue sous France, quand tu tournes, on dit au revoir sous France. C'est-à-dire, c'est un autre panneau. C'est un panneau à double face. Ne me regardez pas seulement dans un seul sens. Quand tu me voyais, tu disais toujours bienvenue souffrance, bienvenue pauvreté, bienvenue stérilité, bienvenue maladie, bienvenue sans promotion. Mais tourne dans l'autre face, tu vas dire au revoir pauvreté, au revoir souffrance, au revoir humiliation, au revoir honte. Je suis un panneau à double regard. Quand tu me regardes, regarde bien. Il y a des informations qui peuvent t'échapper. Je suis un panneau dont les indications sont visibles même au loin. Qui pouvait croire à ce que Jésus pouvait faire pour cet homme aveugle de naissance? Nous sommes dans Jean chapitre 9, du 1er au 11e verset. Alléluia. Jean chapitre 9, du 1er au 11e verset. Qui pouvait croire à ce que le Seigneur Jésus pouvait faire dans la vie de cet homme? Il est fait mention d'un homme qui était aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Oh là là, la technologie des fois nous trahit. Oh là là. Vous connaissez bien cette histoire. Au premier verset, la Bible dit, Jésus vit en passant. Voilà, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est-à-dire, Jésus a fait quoi? Il a jeté un regard. Suivez très bien. Jésus a fait quoi? Il a jeté un regard, mais sans faire de commentaires. Le deuxième verset dit quoi? Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? C'est-à-dire, quand les disciples posent cette question, ils ont aussi fait quoi? Ils ont aussi regardé. Quand eux, ils regardent, ils font des commentaires. Mais regardez maintenant la réponse de Jésus. Lui, il voit, c'est-à-dire, il a jeté un regard sur cet homme, mais aussi les disciples vont regarder sur Jésus et sur cet aveugle né, et ils vont dire, ils vont poser la question à Jésus, « Maître, est-ce que c'est cet homme qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Mais maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. J'ai mes frères et sœurs, suivez. Vous allez acclamer, attendez. Il faut lire la Bible dans plusieurs versions pour bien saisir l'essence. Quand vous lisez la version du Seigneur, Jésus a vu et il n'a pas fait de commentaires. Les disciples ont vu et ils ont voulu chercher des conséquences dans la vie de cet homme, pour savoir qu'est-ce qui lui était réellement, ce qui lui était arrivé, la cause c'était quoi. Mais maintenant la réponse de Jésus, quand vous lisez dans la version du Seigneur, Jésus dit, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec ce que vous dites là, que c'est lui qui a péché, ou que ses parents ont péché. Mais c'est pour que tous puissent voir, par lui, ce que Dieu est capable de faire. Je voudrais dire à un homme, ce que Dieu est capable de faire passera par ta vie. Ce que Dieu est capable de faire passera par ta maternité. Ce que Dieu est capable de faire passera par ta délivrance. Ce que Dieu est capable de faire passera par la promotion que Dieu te donnera. Ce que Dieu est capable
capable de faire passera par les résultats qui te donneront aux études. Ce que Dieu est capable de faire laissera perplexe les hommes autour de toi. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore vu l'œuvre de Dieu. Ils ont entendu parler de ce que Dieu est capable de faire, mais Dieu t'utilisera comme un matériel didactique pour montrer à tout homme, voilà ce que moi, Dieu, suis capable de faire. Les hommes sont champions pour chercher les causes de ton malheur. Les hommes sont champions pour chercher les causes de ta souffrance. Jésus leur répond ce matin, ça n'a aucun rapport. Jésus répond ce matin à tes ennemis, ça n'a aucun rapport. Qu'ils soient dans cette situation de péché ou que ses parents ont péché. Mais je suis venu révéler les œuvres. Je suis venu manifester les œuvres de mon Dieu. Ce matin, il y a quelque chose qui va sortir un homme du trou. Il y a un événement que Dieu est sur le point de créer pour étonner les hommes autour de toi. Je t'informe que Jésus va répondre aux hommes. Je t'informe que Jésus va répondre à tous tes détracteurs. Il va leur dire, ça n'a pas de rapport. Tout ce qu'on a dit sur toi, ça n'a aucun rapport avec ce que Jésus va faire. Tout ce qu'on a raconté sur toi, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Je t'informe que ça n'a aucun rapport. Je te dis que ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ils ont critiqué, ils sont allés dire des choses, même avec des preuves. Parce que cet homme, nous le savons tous, que tout homme né d'Adam, il naît déjà avec les péchés. C'était un panneau à une seule face. Mais Jésus, quand il vient, il dit, ça n'a aucun rapport. Donc, ça dit, les deux panneaux n'ont aucun rapport. Il y a un homme dont le passé et le futur n'aura pas de rapport. Ça n'a aucun rapport. Ce que tu défendras demain, ça n'a aucun rapport avec ton passé. Ce que Jésus est sur le point de faire n'a aucun rapport avec ton passé. Jésus va transformer un homme. Jésus va transformer une vie. Jésus va façonner un homme. Jésus va façonner une vie. Ça n'a aucun rapport qu'il parle, qu'il critique, qu'il dise ce que bon leur semble. Jésus répond ce matin pour dire, ça n'a aucun rapport. Ils ont formaté des complots. Ils ont raconté des choses. Ils ont préparé les pièces pour te noyer, pour te clouer. Mais quand Jésus s'interpose au milieu, il trace une ligne. Il dit, c'est la fin du premier panneau. Désormais, j'ouvre un nouveau panneau, un nouveau regard doit s'imposer aux hommes. Et ce que je fais maintenant, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec ce qui va arriver aujourd'hui. Alléluia. Mais regardez maintenant ce qui va se passer. Un peu plus loin, je crois au verset 5 ou 6, Jésus va cracher par terre. Cet homme est aveugle né. Il n'a jamais vu toute sa vie. Je ne sais pas, il avait combien d'années, 40 ans, je ne sais pas ou combien, mais il était un adulte parce que plus tard, ses parents vont dire, poser lui-même la question parce qu'il a de l'âge. Donc, c'était une vieille situation comme celle d'Israël, 20 ans, plus de 20 ans, dans un seul panneau de honte et de mépris. Et l'Éternel s'était décidé de changer les choses qui ne devaient pas avoir un rapport avec ce qu'ils étaient avant. Jésus va cracher par terre et il va faire de la boue. Il va prendre cette boue, il va appliquer sur les yeux de l'aveugle et il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Cet homme va finalement vers le réservoir de Siloé. Il va se laver les yeux et la Bible dit, et il vit clair. Il vit clair. Il vit clair. C'est-à-dire, les panneaux d'avant avaient été totalement abolis. Les panneaux d'avant avaient totalement été métamorphosés par autre chose de nouveau. Il y aura de la métamorphose dans la vie d'un serviteur, dans la vie d'un enfant de Dieu. Les choses ne s'arrêteraient pas qu'au mépris et à la honte. Dieu s'est décidé de tourner la page sombre de ton histoire. Cet homme va voir très clair. Il va se laver au réservoir de Siloé. Et là, quand il revient, regardez ce qui va se passer. Tous ceux qui les voyaient, qui l'avaient connu avant, ils vont s'approcher pour dire, est-ce lui? Ou bien, ce n'est pas lui et qu'il les ressemble. Les autres disaient quoi? Ce n'est pas lui. Les autres disaient, d'autres encore disaient, c'est lui. Mais, c'est lui qui devait trancher les choses, c'était lui-même. C'était lui-même. Vous, vous pouvez faire des commentaires comme bon vous semble. Vous pouvez être dans cet embrouillement. Mais c'est moi, parce que c'est moi qui ai vécu l'histoire. C'est moi qui ai vécu les miracles. C'est moi qui ai vécu la situation. Il n'y a que moi qui peux départager vos deux camps. Et quand il vient, il dit oui, c'est moi. Vous avez déjà vu quelqu'un. Vous l'avez connu comme Moussoufra. Vous l'avez connu comme ceci, comme cela. Il n'avait rien, un mendiant, aveugle et tout ça. Mais un bon matin, vous le voyez à bord d'une Mercedes noire. Et quand il arrive, il passe devant vous. Vitra ko kitamwa ndambu. Botali bolobi. Wana ye. Tiens. Yete. Moussoufabi. Bako kanio. Mais maintenant, toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on le canate. Fais marche en arrière. Rentre encore. Qui dit sa glace en bien, mais le bango, oui, c'est moi. Ne passe pas, Zonga. Parce que si tu ne rentres pas, aussi dans le débat sans fin. Zongo Katalikam. Zongo sur sa discussion. Sinon, si tu passes comme ça, cet homme va leur dire, c'est moi. Maintenant, tous ne comprennent pas. Ils lui posent la question, mais comment se fait-il que tu vois aujourd'hui? Oh là là! Il y aura des gens qui se poseront la question, comment il y a eu cette transformation? Comment se fait-il que tu aies eu des enfants pendant qu'on t'a diagnostiqué que les trompes là ne pouvaient plus recevoir des enfants? C'était comment? Expliquez un peu. C'était comment? On t'a connu que tu n'avais pas étudié. On sait que tu n'avais pas étudié. On sait que derrière toi, les backgrounds n'étaient pas très rassurants. On sait que ta base arrière ne rassurait pas. Mais comment? Tu n'as jamais poussé les hommes à poser des questions. Tu n'as jamais poussé les gens à se poser des questions. Que Dieu change les regards. Que Dieu change les regards des hommes sur toi. Et tu verras que tu vas créer de l'embouteillage autour de toi. Tu vas créer une ambiance de discussion sur ce que tu es devenu. Ils vont poser la question à cet homme. Mais comment? Vous savez, il y a des questions que vous allez poser. Mais comment? Tellement que c'est compliqué. Mais non, c'est pas possible. Mais comment tu peux voir? Un aveugle de naissance. C'est-à-dire quelqu'un basali na ba radar. Yakobonga ya mutu bali mpitero kotoy. On a tout vu. On s'est dit rien. Mais les gens maintenant reviennent pour dire mais comment? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela est arrivé? Comment cette femme-là s'est mariée? Comment cette fille-là s'est mariée? Comment cet homme-là est devenu comme ça? Comment cette femme-là a pu avoir des enfants? Comment? Je ne sais pas, frères et sœurs. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Je ne sais pas, frères et sœurs. Qu'est-ce que la famille a dit? Je ne sais pas, frères et sœurs. Quand tu regardes ton environnement, quand tu regardes les choses qui sont des naissances, qui sont innées, des choses qui sont, qui remonte de très loin. Quand les gens voyaient, ils n'avaient aucun espoir que ça pouvait changer un jour. Et ils viennent, ils disent, mais comment cet homme a pu voir? J'aime la réponse de cet homme, le verset 11. J'aime la version de cet homme, la réponse. Lisons tous ensemble. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Ah ouais, mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. L'homme qu'on appelle Jésus, il reste incomparable. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est par lui que je vois. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui a changé l'histoire. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui a un destin de gloire pour toi. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui changera ta situation. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui transformera tes conditions. L'homme qu'on appelle Jésus, pas un autre notre nom, par notre nom. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. Devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un nom pour toi ce matin. Le seul nom qui peut t'amener à vivre le second regard, c'est le nom de Jésus. Je suis prévenu ce matin, non pas pour m'afficher, mais c'est pour afficher le nom de Jésus. C'est pour présenter le nom de Jésus. Accède au nom de Jésus. Fais confiance au nom de Jésus. Viens au nom de Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus, je n'ai pas un autre que je puisse te présenter ce matin. Je n'ai que le nom de Jésus pour te présenter ce matin. Je n'ai pas un autre nom que j'ai pu t'orienter, vers lequel j'ai pu t'orienter ce matin. Je n'ai que le nom de Jésus. Le nom de Jésus m'a ramassé. Le nom de Jésus m'a lavé. Le nom de Jésus m'a recommandé. Le nom de Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. Il a fait de la boue. Il a appliqué à mes yeux. Le regard des hommes a changé. Le regard des hommes a changé. Je ne sais pas qui est. Tu es dans quel regard ce matin? Quelle est la nature du regard qui te regarde ce matin? Quel sens de regards qui sont tournés vers toi ce matin? Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant ce nom, les maladies sautent. Devant ce nom, les démons tremblent. Devant ce nom, la vie est assurée. Devant ce nom, le progrès est assuré. Le nom glorieux, il est en train de déboucher les trompes. Il est en train de bouter hors de ta vie toutes sortes de malédictions. Le nom de Jésus est venu valoriser un homme. Le nom de Jésus est venu mettre en valeur notre existence. Il y a le nom de Jésus pour toi ce matin. Si tu ne l'as pas encore rencontré, voici l'occasion de faire la rencontre avec cet homme, Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il y a un nom, il y a un nom, il y a un nom. Shendareba korokama yeke, yeke manema sandareba korokama yeke. Ils avaient vu cet homme, je ne sais pas combien d'années il a, mais il a fallu qu'un nom entre en scène. Il a fallu qu'un nom entre en scène. Le nom de Jésus est venu déterrer un homme. Le nom de Jésus est venu déterrer un peuple. Le nom de Jésus est venu apporter la fierté nationale pour un peuple. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Tu mets ta confiance en qui? Tu as placé ta confiance en qui? Tu as placé ta confiance en quel nom? Ce matin, voici l'homme de Galilée. Ce matin, voici l'homme de Galilée. Jésus! Jésus! Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Nous ne saurons pas voir le deuxième point. Tu peux t'élever là où tu es. Alléluia. Jésus est en train de créer un événement ce matin. Il est en train de créer un événement. Jésus, c'est lui qui crée les événements. Il a créé un événement pour l'aveugle né. Il crée l'événement ce matin pour toi. Oh! L'on se posera la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le nom de Jésus, plus que tous les autres noms. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus restaure. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus affranchit. Le nom de Jésus pardonne du péché. Le nom de Jésus élève. Le nom de Jésus. Chendare ma koroma yeke. Et y'a bakera ma sanda ma yeke. Yenda reba koroma yenda baba. Yeke mané ma sanda reba baba. Oh y'a bakora ma seke. Un panneau à double regard. Un panneau à double regard. On ne t'a pas encore vu. Oh non. On ne t'a pas encore connu. Comme on doit te connaître. On ne t'a pas encore vu. Comme on doit te voir. Yenda reba yeke. Yenda reba koroma seba yeke. On ne
nous sommes obligés de nous arrêter par là vu le temps. Mais vous pouvez continuer à prier à la maison. Il y a un panneau qui doit changer.
Il y a un deuxième panneau qui doit obliger les hommes à les regarder. Et ce panneau n'est possible que l'homme qu'on appelle Jésus. Tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ce matin, reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Peut-être que tu me suis à la télévision, peut-être que tu me suis sur YouTube et sur Facebook. Sache qu'il y a l'homme qu'on appelle Jésus qui a besoin de ton âme, qui a besoin de ta vie. Accepte-le aujourd'hui. Fais cette prière. Dis-lui, Jésus, viens dans mon cœur, prends place dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dès que tu fais cette prière, désormais toi aussi, tu es éligible au miracle. Toi aussi, tu es éligible au deuxième panneau. Nous avons nos mains levées, s'il vous plaît. Oh Jésus, quel panneau qu'on a vu jusqu'à présent. Un panneau, Dieu, habitué à un même regard. Le regard de honte, de désolation, de pitié. Mais ce matin, oh Dieu, tu as décidé d'ouvrir un nouveau panneau. Un panneau avec un nouveau regard. Un panneau avec un regard différent. Ils ont été regardés comme étant stériles. Ils ont été regardés comme étant sans emploi. Ils ont été regardés, oh Dieu, comme sans avenir. Mais c'est toi, l'homme qu'on appelle Jésus, qui ouvre l'accès au nouveau panneau. Seigneur, pardonne ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Et recrée des vies, des panneaux, oh Dieu, comme tu l'as fait avec Israël et avec cet aveugle-né. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre abri, parce que tu es notre secours. Qu'un nouveau panneau s'ouvre pour cet homme au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous reprenons nos places. Seigneur, merci. Merci, Jésus. À cette heure, nous voulons t'offrir nos dîmes, nos offrandes.